BW. Vue d'Allemagne.
En Allemagne, la ministre de l'Éducation songerait à un plafond migratoire dans les écoles, 30 à 40%, Karine Prin s'inspirerait notamment du modèle danois. La proposition ne passe pas chez tout le monde, même dans le monde enseignant. On en parle dans quelques instants. En seconde partie d'émission, nous serons au Chili, dans le désert d'Atacama, où des jeunes se mobilisent contre les décharges de vêtements sauvages. C'est le grand reportage de Vue d'Allemagne. Au micro, Relu Koubakin, Willkommen, bienvenue. Ambiance très détendue avec en début d'émission la ministre fédérale allemande de l'éducation Karine Prin qui, devant une cuisinière, parle de sa passion pour la cuisine sur le toit de la télévision privée Die Welt. Mais là où cela devient plus sérieux, c'est quand Karine Prin, ancienne ministre de l'éducation pendant plusieurs années dans l'État-région du Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, près du Danemark, envisagerait d'introduire un quota d'enfants immigrés dans les écoles en s'inspirant du modèle danois. Ces propos sont lus par ma collègue Constance Fischer.
C'est un modèle envisageable. C'est toujours intéressant d'analyser les expériences des autres pays. Peut-être à long terme 30 ou 40%. Mais ce modèle ne fonctionnerait que si les enfants apprenaient mieux la langue allemande. Par ailleurs, je voudrais faire remarquer que nous n'avons pas seulement des soucis avec ceux issus de l'immigration, mais aussi avec des enfants de familles qui sont établis ici. Cela parce que le comportement des parents dans la manière d'éduquer leurs enfants a changé ou que les parents se sont moins occupés de la réussite scolaire de leurs enfants.
Au sein du gouvernement, l'idée exprimée début juillet par la ministre conservatrice ne fait pas l'unanimité, notamment auprès du partenaire de coalition, les sociaux-démocrates SPD. La porte-parole en charge de l'éducation au sein du groupe parlementaire Yasmina Hollstedt parle d'une mauvaise idée, laissant entendre qu'une bonne éducation et une bonne intégration passent par un soutien ciblé et non par l'exclusion. Sabine Schwarz se sent aussi interpellée par cette idée de la ministre allemande de l'éducation, la directrice d'une école primaire dans l'État-région de Rhénanie du Nord-Westphalie dans l'ouest de l'Allemagne accueille près de 350 élèves. Plus de 80% sont issus de familles immigrées. Selon elle, la proposition de la ministre ne peut pas marcher.
Je pense qu'elle n'a pas réfléchi à la politique du logement ni aux mentalités et qu'elle n'a aucune idée de la situation réelle dans certains quartiers. Car alors, les gens seraient obligés de déménager dans notre quartier, du moins s'ils voulaient aller à l'école près de chez eux. Nous ne connaissons même pas le pourcentage de personnes ici qui seraient considérées comme germanophones ou allemandes.
La population immigrée dans le quartier de son école primaire représente 60%, mais les Allemands qui vivent dans les maisons individuelles juste à côté de son école préfèrent envoyer leurs enfants dans d'autres établissements scolaires, déplore Sabine Schwarz, pour qui cela est regrettable.
DW.
En Allemagne, les questions d'éducation relèvent des compétences des États-régions. Il y en a 16 dans le pays. Il y a près de 20 ans, la Rhénanie du Nord-Westphalie, l'État-région le plus peuplé d'Allemagne, a aboli l'obligation d'inscrire ses enfants dans une école à proximité. Conséquence, les familles allemandes soucieuses de l'éducation de leur progéniture évitent les écoles comme celle de Sabine Schwarz, craignant qu'une forte proportion d'immigrés n'ait un impact négatif sur la réussite scolaire de leurs enfants.
Also, wie man's raus hört.
On entend souvent dire que la migration est synonyme de niveau d'éducation plus faible et que les enfants apprennent plus lentement. Or, c'est totalement faux. Par exemple, nous avons bénéficié de la vague de réfugiés de 2015 car nous avons accueilli de nombreux enfants très intéressés par une bonne instruction. Des enfants traumatisés par leur expérience de réfugiés qui ne pouvaient même pas commencer à penser à leur instruction, des enfants très intéressés par l'éducation et des enfants qui ont fui la pauvreté. C'est injuste de mettre tous les enfants dans le même panier.
La chargée de l'intégration du gouvernement allemand, Nathalie Paulick du SPD, est aussi contrainte le quota d'enfants issus de l'immigration dans les écoles. L'association des élèves parle d'un signal dangereux. L'origine ne devrait jamais devenir un critère d'accès à l'éducation. Le président de l'association des enseignants doute de la mise en œuvre d'une telle mesure. En principe, il ne faut pas seulement tenir compte de l'origine migratoire, mais aussi du niveau linguistique d'un enfant, indique Stéphane Doul, pour qui il y a aussi des enfants issus de l'immigration qui sont nés en allemand et qui parlent également la langue. langue allemande. Enseignants, parents, élèves et experts s'accordent, tous a dit que le système doit être réformé de toute urgence et que la situation ne peut perdurer. L'Allemagne obtient de très mauvais résultats dans de nombreuses catégories. Lors de la dernière étude PISA de 2022, elle n'était qu'en milieu des tableaux. Les compétences des jeunes de 15 ans en lecture, en mathématiques et en sciences ont atteint les niveaux les plus bas jamais enregistrés. Pour Sabine Schwarz, il faut une synergie d'action entre les écoles maternelles et primaires pour un meilleur apprentissage de la langue allemande.
Wir arbeiten sehr eng mit den Kindergärten zusammen, aber wir können halt mangelndes Personal in den Kindergärten nicht auffangen. Wir sehen die Not, die die Kindergärten haben. Wir wissen, dass Kindergärten.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les écoles maternelles, mais nous ne pouvons pas compenser le manque de personnel. Nous en sommes conscients, mais le travail en maternelle est essentiel à la réussite scolaire à l'école primaire. L'apprentissage des langues doit y être encouragé avec des professionnels formés et des ressources adaptées. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement, ce qui crée un décalage entre l'école maternelle et l'école primaire.
Selon une étude, il manque 125 000 éducateurs dans les crèches en Allemagne, soit plus de 2 spécialistes par établissement. Selon l'étude internationale sur la lecture à l'école primaire de 2023, un élève de CM1 sur 4 en Allemagne rencontre des difficultés dans la lecture. Et 56 000 élèves ont quitté l'école sans diplôme cette même année, plus de 7% et la tendance est à la hausse. Vous écoutez toujours le magazine Vue d'Allemagne, place à présent à la seconde partie. Dans le nord du Chili, dans le désert d'Atacama, l'un des plus arides au monde, un spectacle désolant accable les autorités et populations locales. De véritables dunes de vêtements au milieu des vallées et canyons rouges et ocre du désert. Au niveau mondial, la production de vêtements a doublé depuis les années 2000. Selon l'ONG Les Amis de la Terre, si la production de vêtements s'arrêtait aujourd'hui, nous aurions de quoi nous vêtir jusqu'en 2100. Ces décharges sauvages illustrent les conséquences environnementales de cette surproduction vestimentaire mondiale. Il y en aurait plus de 300 dans le désert chilien. Nous vous emmenons dans l'une d'elles avec un jeune homme du coin mobilisé pour mettre fin au phénomène. C'est un reportage de Marion Henault.
Regarde là-bas, on voit beaucoup de décharges. Là, par exemple, si on grimpe cette colline, on trouve les décharges de jeans. On ne trouve pas toujours les vêtements aux mêmes endroits. Parfois, il y en a beaucoup, parfois ils sont brûlés. Là, devant nous, on a des vêtements qui ont été jetés. Regarde, il y a plusieurs décharges comme celle-ci dispersées dans la ville et à sa périphérie.
Bastian Baria a cofondé l'ONG Desierto Vestido, littéralement le désert habillé. Le jeune militant de 30 ans a grandi à Alto Hospicio, une commune de 160 000 habitants très pauvre dans le nord du Chili. C'est là où se trouve la majorité des décharges sauvages de vêtements. En 2020, avec son association, Bastian a publié une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Des montagnes de vêtements de seconde main au milieu du désert d'Atacama. Depuis, il vient régulièrement dans les décharges pour cartographier ces cimetières de la fast fashion, comme il les appelle.
Regarde, là, on a des grands sacs plastiques dans lesquels sont transportés ces vêtements. Ces habits ont été fabriqués dans des pays où la main-d'œuvre est bon marché, comme en Asie. Puis ils sont vendus dans les magasins de prêt-à-porter des pays les plus développés et finalement, ils sont donnés à des associations qui les donnent ou les vendent à des entreprises importatrices, comme ici au Chili. Les habits qui ne sont plus à la mode ou qui ont des défauts sont jetés ici parce que personne ne veut les acheter.
Le Chili est le premier importateur de vêtements de seconde main d'Amérique du Sud. Environ 70% des 130 000 tonnes importées chaque année termineraient dans les décharges sauvages d'Atacama. Selon les autorités et les associations, ce sont des transporteurs privés embauchés par les entreprises importatrices qui jettent les vêtements dans le désert. Les importateurs accusent, eux, les vendeurs sur les marchés au détail. Pour comprendre, nous remontons la trace de ces vêtements. Sur le grand marché à ciel ouvert de la Quebradilla, à quelques kilomètres des décharges, nous retrouvons Kim, une styliste qui recycle les vêtements.
Je viens d'acheter une veste pour 500 pesos, même pas un dollar. Devant nous, il y a un stand avec des monticules de draps, des chemises, des pantalons, des sous-vêtements. La plupart sont au sol, certains suspendus. Mais la majorité des vêtements sont en mauvais état. Ils ne peuvent pas être vendus. Bonjour. Dites-moi, les vêtements que vous ne vendez pas, vous en faites quoi?
On les jette.
Où ça? Dans les décharges?
Non, je ne sais pas. Je n'en fais que travailler ici.
Ok, je demande parce que je recycle les vêtements. Donc, je peux les récupérer avant qu'ils ne soient jetés. Tu vois? Ils les jettent.
Certains commerçants reconnaissent donc jeter les vêtements qu'il leur reste sur les bras. Mais pour Kim, c'est incomparable avec les tonnes jetées par les entreprises importatrices qui sont installées dans la zone franche du grand port d'Iquique, à une dizaine de kilomètres des décharges. C'est là que nous nous rendons maintenant avec Kim pour essayer d'entrer dans un entrepôt.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
No grabamos nada.
C'est pas possible. Ok. Ok.
Bon, on est rentrés, ils ne veulent pas répondre à nos questions, mais au moins, on a un peu vu. C'est des montagnes de vêtements. Son montagnes.
Montagnes. Mira, los fardos principalmente vienen en una bolsa plástica.
Regarde, les ballots, ce sont ces grands sacs plastiques transparents. Les vêtements de meilleure qualité sont au-dessus, visibles. Et au milieu, il y a tous les vêtements que personne ne veut, les déchets en réalité.
No quieren, pues, no, lo que se están desechando, por así decirlo. La ropa llega a través de contenedores, de containers.
Les vêtements arrivent par conteneur. Puis, ils sont stockés dans ces entrepôts où des travailleurs s'occupent de sélectionner les vêtements. Les habits de troisième catégorie, les vêtements usagés, les vieux vêtements, tachés, sont ceux qui finissent principalement dans le désert.
Les autorités locales et les associations démunies face à l'ampleur du phénomène appellent à réduire la production mondiale de vêtements. Elles demandent aussi aux pays occidentaux de trier les vêtements de seconde main avant d'envoyer des déchets textiles à l'autre bout du monde.
Merci Marion Hino. C'est la fin de cette édition de Vue d'Allemagne. À écouter et réécouter sur le site internet, les réseaux sociaux et sur la plateforme du podcast de votre choix. Allez, scooter, tchuss!